J'ai beaucoup de mal à m'imaginer comment je vivrais l'expérience de me retrouver dans une autre dimension que l'espace-temps, vu que c'est la seule que je connaisse depuis le début de mon existence. Mais supposons que ça m'arrive suite à une anomalie du genre vortex. Croyez-moi, je me montrerai discret et marcherai sur la pointe des pieds pour ne pas révéler ma présence. Mais si l'un des personnages de l'au-delà se tournait alors subitement vers moi pour engager la conversation, je crois que je serais pris de panique. Une telle expérience était pratiquement le pain quotidien des prophètes de l'Ancien Testament. Alors qu'ils voient la gloire de Dieu, Ésaïe ne peut s'empêcher de crier « Malheur à moi, je suis perdu !» car j'ai les lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et voici que, de mes yeux, j'ai vu le roi, le Seigneur des armées célestes. Alors l'un des séraphins vola vers moi. Il tenait à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il m'en toucha la bouche et me dit, « Maintenant que ceci vient d'être appliqué sur tes lèvres, ta faute est enlevée. « Et ton péché expié ?» Et j'entendis alors le Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je ? Qui marchera pour nous ?» Alors je répondis, « Je suis prêt. Envoie-moi. » Le prophète Zacharie aussi est entré dans l'au-delà, où il voit Josué, le grand prêtre, couvert d'habits très sales, et l'ange de l'Éternel qui ordonne, « Ôte-lui les vêtements sales !» Et il ajouta à l'adresse de Josué, « Regarde, j'ai enlevé le poids de ta faute que tu portais, et l'on te revêtira d'habits de fête. » Alors Zacharie ne peut pas s'empêcher d'ajouter, « Qu'on lui mette un turban pur sur la tête. » Et c'est ce qu'on a fait. On lui posa donc le turban pur sur la tête, et on le revêtit d'autres habits, dit le texte. Je continue de lire dans le chapitre 7 du livre de l'Apocalypse. Alors l'un des vieillards prit la parole et me demanda, « Ces gens vêtus d'une tunique blanche, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Les 24 vieillards ou anciens représentent l'Église ôtée du monde qui est désormais dans les cieux. L'un d'entre eux s'adresse à l'apôtre Jean, ce qui fait de lui un participant actif de la vision. Cet ancien ne cherche pas à obtenir un renseignement, mais à établir un dialogue. Sa question est une figure de style dans le but de communiquer la signification de la vision. On rencontre ce type d'interaction chez plusieurs prophètes. Je lis quelques exemples tirés de Jérémie, Amos et Zacharie. L'Éternel m'adressa encore la parole en ces termes. « Que vois-tu, Jérémie ? » Je répondis, « Je vois une branche d'amandier. » L'Éternel m'adressa une seconde fois la parole. « Que vois-tu encore ? » Et je répondis, « Je vois un chaudron en train de bouillir et qui se trouve au nord. » Il, le Seigneur me dit, « Que vois-tu, Amos ?» Et je dis, « De l'étain. » Et le Seigneur me dit, « Je vais mettre l'étain au milieu d'Israël, mon peuple. » Et désormais, je ne lui pardonnerai plus. Il me dit, « Que vois-tu, Amos ?» Et je lui répondis, « Je vois une corbeille remplie de fruits mûrs. » Et l'Éternel me dit, « La fin est arrivée pour Israël, mon peuple, car désormais, je ne lui pardonnerai plus. » Un ange interprète demanda à Zacharie, « Que vois-tu ? » Je répondis, « Je vois un chandelier tout en or, muni, à la partie supérieure d'un réservoir. Il est surmonté de 7 lampes, et il a 7 conduits pour les lampes. » Il me dit, « Ne sais-tu pas ce que cela représente ?»« Non, mon Seigneur, lui répondis-je. » Les visions que reçoivent les prophètes sont souvent des mises en scène fantasmagoriques. Cependant, leur but n'est pas de donner dans le spectaculaire, genre effets spéciaux, mais bien plutôt de transmettre une révélation divine dont chaque détail est important. La question du vieillard est une forme de rhétorique qui doit conduire notre attention vers la multitude des gens vêtus d'une tunique blanche, et donc de nous rappeler une fois encore que pendant la tribulation, beaucoup de gens seront sauvés. Je continue le texte. Ces gens, vêtus d'une tunique blanche, qui sont-ils? D'où sont-ils venus? Je lui répondis. Monseigneur, c'est toi qui le sais. Il reprit, ce sont ceux qui viennent de la grande détresse. La réponse de Jean, Monseigneur, c'est toi qui le sais, exprime son respect envers ce haut personnage. Il lui confesse aussi son ignorance et sa grande perplexité, et il demande à savoir. Jean se souvient sans doute que Jésus a dit, entrez par la porte étroite, en effet. Large est la porte et facile la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent. Mais étroite est la porte et difficile le sentier qui mène à la vie. Qu'ils sont peu nombreux, ceux qui les trouvent. De plus, l'apôtre a vu en vision les églises de la province d'Asie stagner ou même dépérir. Alors cette vision d'une multitude de croyants le laisse confus. Littéralement, l'ancien dit que ce sont ceux qui sont en train de venir de la grande détresse. En d'autres mots, c'est un processus qui n'est pas achevé mais qui continue. Ce qui veut dire que ce groupe de personnes va continuer à grossir. La réponse de l'ancien confirme bien que ces gens sont issus de la tribulation car c'est pendant cette période d'intense détresse qu'ils ont placé leur confiance en Jésus. Et pour la plupart d'entre eux, leur fidélité au Seigneur s'est soldée par une mort de martyr. L'explication que l'ancien montre que ce groupe de personnes est bien particulier et distinct de tout autre groupe de croyants de l'histoire. La grande détresse ou grande tribulation définit une période bien précise de l'avenir qui correspond au jugement divin qui frappera le monde pendant la seconde moitié des 7 ans de tribulation. Juste avant que Jésus ne revienne sur terre pour établir son royaume. Tous les châtiments du 7e sceau, qui incluent les jugements des trompettes et des coupes de la colère de Dieu, seront sans précédent dans l'histoire de l'humanité. En dehors du déluge, jamais une dévastation à l'échelle mondiale et planétaire ne s'est produite jusqu'à là. Jésus lui-même dit de cette période « La détresse sera plus terrible » que tout ce qu'on connut depuis le commencement du monde. Et jamais plus, on ne verra pareille souffrance. Les croyants, qui sont alors sur terre, ne sont évidemment pas directement visés par la colère de Dieu, mais ils en subissent les contre-coups, et ils portent le poids des souffrances que leur imposent les ennemis de Dieu. La persécution ira en augmentant à partir du milieu des 7 ans de tribulation. À la fin du 7e sceau, certains croyants sont déjà morts martyrs et beaucoup d'autres suivront. Je continue le texte. Ce sont ceux qui viennent de la grande détresse. Ils ont lavé et blanchi leur tunique dans le sang de l'agneau. L'un des 24 anciens explique la manière dont les croyants issus de la tribulation ont obtenu le privilège de se retrouver dans les cieux et devant le trône de Dieu entouré des êtres célestes. Dans les Écritures, les vêtements sales symbolisent souvent la souillure du péché, tandis que le salut et le pardon sont généralement comparés à une purification ou un lavage. Ces tuniques, ces robes d'un blanc éclatant que portent au ciel ces croyants symbolisent la justice, la sainteté et la pureté qui leur a été imputée, attribuée, a priori, Il peut paraître curieux qu'on puisse nettoyer quoi que ce soit avec du sang. Mais dans l'Ancien Testament, la purification rituelle se fait presque toujours avec le sang d'animaux égorgés, sang qui parfois est même aspergé sur le peuple. L'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit « Selon la loi, presque tout est purifié avec du sang, et il n'y a pas de pardon des péchés sans du sang soit versé. » Sous le régime de l'Ancienne Alliance, le pécheur est obligé d'offrir un sacrifice pour recevoir le pardon de Dieu. Cette nécessité, incontournable d'une part, enseigne au peuple de Dieu qu'une victime innocente est nécessaire pour expier les péchés, et d'autre part, prépare l'humanité à la venue du Sauveur, qui sur la croix a lavé de leurs péchés tous ceux qui lui font confiance. Cela est vrai pour nous, et le restera jusqu'à la fin des temps pour tous les croyants, jusqu'au retour de Jésus-Christ sur terre. Je continue le texte. Ceux qui viennent de la grande détresse ont lavé et blanchi leur tunique dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et lui rendent un culte nuit et jour dans son temple. Ceux qui deviennent chrétiens et meurent pendant la tribulation se tiennent devant le trône de Dieu. Cependant, cet immense privilège ne leur est pas accordé à cause de ce qu'ils ont dû souffrir, mais seulement parce qu'ils sont purifiés et lavés de leurs péchés par le sacrifice de Jésus. C'est son œuvre sur la croix et rien d'autre qui les rend dignes de paraître devant Dieu et de lui rendre un culte. Cette forme d'adoration est continuelle, puisqu'il n'y a ni jour ni nuit dans le royaume des cieux. Plus loin dans le livre, on apprend que ce culte est rendu à Dieu dans son temple, ce qui veut dire qu'il y a un temple dans le ciel. Et si j'ai bien compté, Jean le mentionne 8 fois. Il y aura également un temple sur terre à Jérusalem pendant les 1000 ans que durera le royaume du Messie. Parce que, tant que le mal est encore présent dans l'univers, un temple est nécessaire pour servir de point de rencontre entre le Dieu 3 fois saint et l'homme pécheur. Aujourd'hui, le temple de chaque croyant est son propre corps. Et dans les cieux, le temple est constitué par la sphère sainte où réside Dieu et qui se trouve à l'écart de l'univers déchu. Mais dans l'éternité future, il n'y aura plus de temple. À la fin du livre de l'Apocalypse, Jean écrit « Je ne vis aucun temple dans la ville, la nouvelle Jérusalem. Son temple, c'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, ainsi que l'Agneau. » Jusqu'au jugement du grand trône blanc qui aura lieu à la fin du millénium, le péché sera toujours présent dans l'univers. Mais ensuite, après la création du nouveau ciel et de la nouvelle terre, dans l'état éternel, le mal sous toutes ses formes aura entièrement disparu. Il n'existera pas dans le nouvel univers. Cependant, il y aura toujours l'état éternel de l'étang de feu, dans lequel seront confinés les démons, ainsi que ceux qui n'ont pas été rachetés par Jésus-Christ. Ce n'est pas un sujet sur lequel on aime trop s'étendre. Je continue le texte du chapitre 7. Ceux qui viennent de la grande détresse se tiennent devant le trône de Dieu, et celui qui siège sur le trône les abritera sous sa tente. Une autre façon de traduire que « Celui qui est assis sur le trône fera demeurer sa Shekinah sur eux. » La Shekinah étant la manifestation de la présence de Dieu parmi les hommes. L'image bucolique de ce verset évoque la protection, la sécurité et la consolation. Dieu rempli de majesté et qui siège sur le trône dressera lui-même la tente de sa glorieuse présence sur ses croyants qui ont tant souffert et sont morts martyrs. Le mot pour tente est souvent traduit par tabernacle, et le verbe qui lui correspond est traduit par habiter ou vécu. À la fin du livre, Jean écrit et j'entendis une forte voix venant du trône qui disait « Voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront ses peuples, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. » Le Créateur a toujours désiré vivre au milieu des hommes. C'est le but de sa création et du choix d'Israël comme peuple de Dieu. À l'époque de Moïse, l'Éternel dit aux Israélites, « Je ferai ma demeure au milieu d'eux. Je vivrai au milieu de vous. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. » En parlant d'Israël, dans le royaume millénaire, l'Éternel fait dire au prophète Ézéchiel, « Ma demeure sera près d'eux, je serai leur père, et ils seront mon peuple. » Ceux qui viennent de la grande détresse ont été des témoins de souffrances et d'horreurs indescriptibles, et la plupart d'entre eux ont subi des persécutions atroces aux mains de l'Antéchrist. Mais dès qu'ils entrent dans le sanctuaire céleste, et donc en présence de Dieu, ils s'en trouvent dans l'endroit le plus sûr qui soit. Là, ils sont à l'abri des fléaux dévastateurs qui vont frapper le monde impie au fur et à mesure que Dieu déchaînera les jugements des trompettes et des coupes. Je continue le texte. Ils, ceux qui viennent de la grande détresse, ne connaîtront plus ni la faim, ni la soif. Ils ne souffriront plus des ardeurs du soleil, ni d'aucune chaleur brûlante. Cette promesse est tirée d'un passage du livre d'Ésaïe qui décrit les bénédictions d'Israël pendant le millénium. Je le cite. « Ils n'endureront plus ni la faim ni la soif, la chaleur du désert et le soleil ne les frapperont plus, car celui qui les aime les conduira et il les mènera auprès des sources d'eau. » Chez les auteurs sacrés, la même prophétie a souvent deux, voire même trois applications. Ici, par exemple, Ésaïe annonce le bonheur d'Israël pendant le millénium, tandis que Jean reprend les paroles d'Ésaïe et les applique aux croyants issus de la tribulation qui sont maintenant dans le repos de Dieu. Ceux qui viennent de la grande détresse ont très vraisemblablement enduré la faim, la soif, la chaleur étouffante et le soleil brûlant, ce qui correspond aussi un jugement encore à venir. Plus loin on lit, le quatrième ange versa sa coupe sur le soleil. Il lui fut donné de brûler les hommes par son feu. Les hommes furent atteints de terribles brûlures, et ils insultèrent Dieu, qui a autorité sur ses fléaux, mais ils refusèrent de changer et de lui rendre hommage. Comme je l'ai déjà dit, pendant le jugement de la tribulation, Dieu ne vise évidemment pas les siens qui sont sur terre, car les anges exécuteurs des châtiments divins ne touchent pas aux croyants. Par contre, ces derniers subissent quand même les contre-coups des fléaux naturels. Aucun passage du livre de l'Apocalypse ne précise comment les croyants vont vivre et survivre au jugement de Dieu. On est cependant en droit de penser que certains échapperont miraculeusement à la mort due aux destructions causées par une nature déchaînée et un univers en furie, mais d'autres y perdront la vie. Par contre, ce qui est sûr est qu'une fois dans les cieux, les croyants sont à l'abri de tous les maux physiques, moraux ou spirituels qui tôt ou tard atteignent tous les hommes sur terre. Je finis de lire le chapitre 7. Car l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux, comme un berger. Il les conduira vers les sources d'eau vive, et Dieu lui-même essuiera toute larme de leurs yeux. L'image de Dieu, en tant que berger de son peuple, est sans aucun doute l'une des plus réconfortantes des descriptions de l'Éternel dans l'Ancien Testament. Même les païens purs et durs ont entendu parler au moins une fois du psaume 23 dans lequel David écrit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes, et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves, et pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit, et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins de parfum ma tête. Tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront, et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. » Et le prophète Ésaïe écrit : « Voici l'Éternel Dieu, comme un berger, il paîtra son troupeau et il rassemblera les agneaux dans ses bras. Sur son sein, il les porte et conduit doucement les brebis qui allaitent. » Dans le Nouveau Testament, Jésus est présenté comme le bon berger de son peuple. Dans l'Évangile selon Jean, il dit lui-même : « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Jésus est aussi appelé le grand berger de ses brebis. Dans l'Épître aux Hébreux et dans sa première épître, l'apôtre Pierre écrit : « Vous étiez comme des brebis errantes, mais à présent, vous êtes retourné vers le berger qui veille sur vous. » Les passages des Écritures que je viens de lire sont particulièrement utiles pour consoler et réconforter celui qui traverse des heures sombres et qui souffre. Ici, Jésus est l'agneau qui prend soin de son peuple avec tendresse. Un verbe grec qui signifie « paître un troupeau » est utilisé 3 autres fois dans le livre de l'Apocalypse et appliqué à Jésus-Christ. Mais chaque fois, le Seigneur est alors décrit comme un berger à poigne qui subjugue les nations avec un sceptre de fer, un peu comme le cavalier qui mate un cheval rebelle à coups de fouet. Ces 3 références sont l'accomplissement d'une prophétie de l'un des psaumes royaux dans lequel Jésus est présenté comme le roi de la lignée de David qui règne sur toute la terre. Dans ce psaume royal, Jésus dit : « Je publierai le décret qu'a promulgué l'Éternel. Il m'a dit : demande-moi, que veux-tu ? Je te donne en patrimoine tous les peuples de la terre, et le monde, jusqu'en ses confins lointains, sera ta propriété. Avec un sceptre de fer, tu les soumettras, comme des vases d'argile, tu les briseras. » Cependant, pour les croyants, il en est tout autrement. Non seulement le bon berger et le grand berger conduira son troupeau vers les sources d'eau vive, mais il essuiera aussi toutes larmes de leurs yeux. Cette image touchante évoque la maman qui fait ce geste pour consoler son enfant d'un gros chagrin. Vers la fin du livre, Jean écrit à nouveau : « Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. » Et il ajoute : « La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. » Depuis la nuit des temps et la chute d'Adam et Ève, c'est l'aspiration et le grand soupir de l'être humain, et ce sera la consolation éternelle des croyants.